L'adolescent, chapitre 3. Ada. Après l'été pluvieux, l'automne rayonnait. Dans les vergers, les fruits pullulaient sur les branches. Les pommes rouges brillaient comme des billes d'ivoire. Quelques arbres déjà revêtaient hâtivement leur plumage éclatant de l'arrière-saison. Couleur de feu, couleur de fruits, couleur de melon mûr, d'orange, de citron, de cuisine savoureuse, de viande rissolée. Des lueurs fauves s'allumaient de toutes parts dans les bois, et des prairies sortaient les petites flammes roses des colchiques diaphanes. Il descendait une colline. C'était une après-midi de dimanche. Il marchait à grands pas, courant presque, entraîné par la pente. Il chantait une phrase dont le rythme l'obsédait depuis le commencement de la promenade. Rouge, débraillé, il allait, agitant les bras et roulant les yeux comme un fou, lorsqu'à un tournant du chemin, il se trouva brusquement en présence d'une grande fille blonde qui, juchée sur un mur, et tirant de toutes ses forces une grosse branche d'arbre, se régalait goulûment de petites prunes violettes. Ils furent aussi surpris l'un que l'autre. Elle le regarda, effarée, la bouche pleine, puis elle éclata de rire. Il en fit autant. Elle était plaisante à voir, avec sa figure ronde, encadrée de cheveux blonds frisottants, qui faisaient autour d'elle comme une poussière de soleil. Ses joues pleines et roses, ses larges yeux bleus, son nez un peu gros, impertinemment retroussé, sa bouche petite et très rouge, montrant des dents blanches aux canines fortes et avançantes, son menton gourmand et toute son abondante personne, grande et grasse, bien faite, solidement charpentée. Il lui cria « Bon appétit !» et voulut continuer son chemin. Mais elle l'appela « Monsieur, monsieur, voulez-vous être gentil? Aidez-moi à descendre, je ne peux plus. » Il revint et lui demanda comment elle avait fait pour monter. « Avec mes griffes, c'est toujours plus facile de monter. Surtout quand il y a des fruits appétissants qui pendent au-dessus de votre tête. Oui, mais quand on a mangé, on n'a plus de courage. On ne peut plus retrouver le chemin. » Il la regardait perché. Il dit « Vous êtes très bien ainsi. Restez là bien tranquille. Je viendrai vous voir demain. Bonsoir. » Mais il ne bougea pas, planté au-dessous d'elle. Elle feignit d'avoir peur et le supplia, avec de petites mines, de ne pas l'abandonner. Il restait à se regarder en riant. Elle dit, en lui montrant la branche à laquelle elle était accrochée, « En voulez-vous ? » Le respect de la propriété ne s'était pas développé chez Christophe depuis le temps de ses courses avec Otto. Il accepta sans hésiter. Elle s'amusa à le bombarder de prunes. Quand il eut mangé, elle dit « Maintenant !» Il prit un malin plaisir à la faire attendre. Elle s'impatientait sur son mur. Enfin, il dit « Allons !» et lui tendit les bras. Mais au moment de sauter, elle se ravisa. « Attendez, il faut d'abord faire des provisions. » Elle cueillit les plus belles prunes qui étaient à sa portée et en remplit son corsage rebondit. « Attention, ne les écrasez pas !» Il avait presque envie de le faire. Elle se baissa sur le mur et sauta dans ses bras. Bien qu'il fût solide, il plia sous le poids et faillit l'entraîner en arrière. Ils étaient de même taille. Leurs figures se touchaient. Il baisa ses lèvres humides et sucrées du jus des prunes, et elle lui rendit son baiser sans plus de façon. « Où allez-vous » demanda-t-il. « Je ne sais pas. Vous vous promeniez seul ?»« Non, je suis avec des amis, mais je les ai perdus. »« Eh oh !» fit-elle brusquement, en appelant de toutes ses forces. Rien ne répondit. Elle ne s'en préoccupa pas autrement. Ils se mirent à marcher, au hasard, droit devant eux. « Et vous, où allez-vous » dit-elle. « Je n'en sais rien non plus. Très bien, nous allons ensemble. » Elle sortit des prunes de son corsage entrebâillé et se mit à les croquer. « Vous allez vous faire mal, » dit-il. « Jamais, toute la journée j'en mange. » Par la fente du corsage, il voyait la chemisette. « Elles sont toutes chaudes maintenant, » dit-elle. « Voyons. » Elle lui entendit une en riant. Il la mangea. Elle le regardait du coin de l'œil en suçant ses fruits comme un enfant. Il ne savait trop comment l'aventure finirait. Il est probable qu'elle, du moins, s'en doutait. Elle attendait. « Eh oh » cria-t-on dans le bois. « Eh oh » répondit-elle. « Ah, les voici » dit-elle à Christophe. « Ce n'est pas malheureux. » Elle pensait au contraire que c'était plutôt malheureux. Mais la parole n'a pas été donnée à la femme pour dire ce qu'elle pense, grâce à Dieu. Il n'y aurait plus de morale possible sur la terre. Les voix se rapprochaient. Ses amis allaient déboucher sur le chemin. Elle sauta d'un bond le fossé de la route, grimpa le talus qui la bordait, et se cacha derrière les arbres. Il la regardait faire, étonné. Elle lui fit signe impérieusement de venir. Il la suivit. Elle s'enfonça dans l'intérieur du bois. « Hé, oh !» fit-elle de nouveau, quand ils furent assez loin. « Il faut bien qu'il me cherche, » expliqua-t-elle à Christophe. Les gens s'étaient arrêtés sur la route et écoutaient d'où venait la voix. Ils répondirent et entrèrent à leur tour dans le bois. Mais elle ne les attendit pas. Elle s'amusa à faire de grands crochets à droite et à gauche. Ils s'époumonnaient à l'appeler. Elle les laissait faire, puis elle allait crier dans la direction opposée. À la fin, ils se lassèrent, et sûrs que le meilleur moyen de la faire venir était de ne point la chercher, ils crièrent « Bon voyage !» et partirent en chantant. Elle fut furieuse qu'ils ne se souciassent pas plus d'elle. Elle avait bien cherché à se débarrasser d'eux, mais elle n'admettait pas qu'ils en prissent si facilement leur parti. Christophe faisait sotte figure. Ce jeu de cache-cache avec une fille qu'il ne connaissait pas le divertissait médiocrement, et il ne pensait point à mettre à profit leur solitude. Elle n'y pensait pas davantage. Dans son dépit, elle oubliait Christophe. « Oh, c'est trop fort !» dit-elle en tapant des mains. « Voilà qu'il me laisse ainsi. »« Mais, dit Christophe, c'est vous qui l'avez voulu. »« Pas du tout. »« Vous les fuyez. »« Si je les fuis, c'est mon affaire. Ce n'est pas la leur. »« Eux, ils doivent me chercher. »« Et si j'étais perdu ?» Elle s'apitoyait déjà sur ce qui aurait pu arriver si le contraire de ce qui était avait été. « Oh, je m'en vais les secouer, » dit-elle. Elle rebroussa chemin à grandes enjambées. Sur la route, elle se souvint de Christophe et le regarda de nouveau. Mais il était trop tard. Elle se mit à rire. Le petit démon qui était en elle l'instant d'avant n'y était plus. En attendant qu'il en vînt un autre, elle voyait Christophe avec des yeux indifférents. Et puis, elle avait faim. Son estomac lui rappelait qu'il était l'heure du souper. Elle avait hâte de regagner ses amis à l'auberge. Elle prit le bras de Christophe. Elle s'appuyait dessus de toutes ses forces. Elle geignait et se disait harassée. Cela ne l'empêcha point d'entraîner Christophe le long d'une pente, en courant et criant et riant comme une folle. Ils causèrent. Elle apprit qui il était. Elle ne connaissait pas son nom, et parut n'attacher qu'une médiocre estime à son titre de musicien. Il sut qu'elle était demoiselle de magasin chez une modiste de la Kaiserstrasse, la rue la plus élégante de la ville. Elle se nommait Adelheid. Pour les amis Ada. Ses compagnons de promenade étaient une de ses amies, qui travaillait dans la même maison qu'elle, et deux jeunes gens très bien, un employé à la banque Weiler et un commis d'un grand magasin de nouveautés. Ils profitaient de leur dimanche. Ils avaient décidé d'aller dîner à l'auberge du Brochet, d'où l'on a une très belle vue sur le Rhin, et de revenir ensuite par le bateau. La compagnie était déjà installée à l'auberge quand ils y arrivèrent. Ada ne manqua point de faire une scène à ses amis. Elle se plaignit de leur lâche abandon et présenta Christophe en disant qu'il l'avait sauvé. Ils ne tinrent aucun compte de ses doléances, mais ils connaissaient Christophe, l'employé de réputation, le commis pour avoir entendu quelques morceaux de lui. Il crut bon d'en fredonner un air tout aussitôt, et le respect qu'ils lui témoignèrent fit impression sur Ada, d'autant plus que Mira, l'autre jeune femme, elle se nommait en réalité Hansi ou Johanna, une brune aux yeux clignotants, au front osseux, aux cheveux tirés, figure de chinoise, un peu grimaçante, mais spirituelle et non sans charme, avec son museau de chèvre et son teint huileux et doré, se hâta de faire des avances à monsieur le Hofmusikus. Ils le prièrent de bien vouloir honorer leur repas de sa présence. Ils ne s'étaient jamais trouvés à pareille fête, car chacun le comblait d'égards, et les deux femmes, en bonnes amies, cherchaient à se le voler l'une à l'autre. Toutes deux lui firent la cour. Mira, avec des manières cérémonieuses et des yeux sournois, le frôlant de la jambe sous la table. Ada, effrontément, jouant de ses belles prunelles, de sa belle bouche, et de toutes les ressources de séduction de sa belle personne. Ses coquetteries un peu grossières gênaient et troublaient Christophe. Ses deux filles, hardies, le changeaient des figures ingrates qui l'entouraient chez lui. Mira l'intéressait. Il la devinait plus intelligente que Ada. Mais ses façons obséquieuses et son sourire ambigu lui causaient un mélange d'attrait et de répulsion. Elle ne pouvait lutter contre le rayonnement de vie et de plaisir qui se dégageait de Ada, et elle le savait bien. Quand elle vit que la partie était perdue pour elle, elle n'insista point, se replia sur elle-même, continua de sourire, et, patiente, attendit son jour. Ada, se voyant maîtresse du terrain, ne chercha pas à pousser ses avantages. Ce qu'elle en avait fait était surtout pour déplaire à son amie. Elle y avait réussi, elle était satisfaite. Mais à son jeu, elle s'était prise elle-même. Dans les yeux de Christophe, elle sentait la passion qu'elle avait allumée, et cette passion s'allumait en elle. Elle se tut, elle cessa ses agaceries vulgaires. Ils se regardèrent en silence. Ils avaient sur leur bouche le goût de leur baiser. De temps en temps, par saccades, ils prenaient part bruyamment aux plaisanteries des autres convives. Puis ils retombaient dans leur silence, se regardant à la dérobée. À la fin, ils ne se regardaient même plus, comme s'ils craignaient de se trahir. Absorbés en eux-mêmes, ils couvaient leurs désirs. Quand le repas fut fini, ils se disposèrent à partir. Ils avaient 2 kilomètres à faire à travers bois pour rejoindre la station du bateau. Ada se leva la première et Christophe la suivit. Ils attendirent sur le perron que les autres fussent prêts. Sans parler, côte à côte, dans le brouillard épais que perçait à peine l'unique lanterne allumée devant la porte de l'auberge. Mira s'attardait devant le miroir. Ada saisit la main de Christophe et l'entraîna le long de la maison, vers le jardin, dans l'ombre. Sous un balcon d'où tombait une draperie de vigne vierge, ils se tinrent cachés. Les lourdes ténèbres les entouraient. Ils ne se voyaient même pas. Le vent remuait les cimes des sapins. Ils sentaient, enlacés à ses doigts, les doigts tièdes de Ada, et le parfum d'une fleur d'héliotrope qu'elle avait à son sein. Brusquement, elle l'attira contre elle. La bouche de Christophe rencontra la chevelure de Ada, mouillée par le brouillard, baisa ses yeux, ses cils, ses narines et ses grasses pommettes, et le coin de sa bouche, cherchant, trouvant ses lèvres, y restant attaché. Les autres étaient sortis. On appelait « Ada !» Ils étaient immobiles, ils respiraient à peine, pressant l'un contre l'autre leur bouche et leur corps. Ils entendirent Mira. Ils sont partis devant. Les pas de leurs compagnons s'éloignèrent dans la nuit. Ils se serrèrent plus fort, en silence, étouffant sur leurs lèvres un murmure passionné. Une horloge de village sonna au loin. Ils s'arrachèrent à leur étreinte. Il leur fallait bien courir à la station. Sans un mot, ils se mirent en route, bras et mains enlacés, réglant leur marche sur le pas l'un de l'autre. Un petit pas rapide et décidé, comme elle. La route était déserte, la campagne vide d'être, ils ne voyaient pas à 10 pas devant eux. Ils allaient, sereins et sûrs, dans la nuit bien-aimée. Jamais ils ne butaient contre les cailloux du chemin. Comme ils étaient en retard, ils prirent un raccourci. Le sentier, après avoir descendu quelque temps au milieu des vignes, se mit à remonter et serpenta longuement sur le flanc de la colline. Ils entendaient, dans le brouillard, le bruissement du fleuve et les palettes sonores du bateau qui venait. Ils laissèrent le chemin et coururent à travers champs. Ils se trouvèrent enfin sur la berge du Rhin, mais assez loin encore de la station. Leur sérénité n'en fut pas altérée. Ada avait oublié sa fatigue du soir. Il leur semblait qu'ils auraient pu marcher toute la nuit, ainsi, sur l'herbe silencieuse, dans la brume flottante, plus humide et plus dense le long du fleuve, enveloppé d'une blancheur lunaire. La sirène du bateau mugit, le monstre invisible s'éloigna lourdement. Ils dirent en riant, « Nous prendrons le suivant. » Sur la grève du fleuve, un doux remous de vagues vint se briser à leurs pieds. À l'embarcadère, on leur dit, « Le dernier vient de partir. » Le cœur de Christophe battit. La main de Ada serra plus fort le bras de son compagnon. « Bah !» dit-elle, « il y en aura bien un demain. » À quelques pas, dans un halo de brouillard, la lueur falote d'une lanterne accrochée à un poteau sur une terrasse au bord du fleuve. Un peu plus loin, quelques vitres éclairées, une petite auberge. Ils entrèrent dans le jardin minuscule. Le sable grésillait sous leurs pas. Ils trouvèrent à tâtons les marches de l'escalier. Dans la maison, quand ils entrèrent, on commençait à éteindre. Ada, au bras de Christophe, demanda une chambre. La pièce où on les conduisit donnait sur le jardinet. Christophe, en se penchant à la fenêtre, vit la lueur phosphorescente du fleuve et l'œil de la lanterne sur la vitre de laquelle s'écrasaient des moustiques aux grandes ailes. La porte se referma. Ada restait debout près du lit et souriait. Il n'osait la regarder. Elle ne le regardait pas non plus, mais à travers ses cils, elle suivait tous les mouvements de Christophe. Le plancher craquait à chaque pas. On entendait les moindres bruits de la maison. Ils s'assirent sur le lit et s'étreignirent en silence. La lueur vacillante du jardin s'est éteinte. Tout s'est éteint. La nuit, le gouffre, ni lumière ni conscience. L'être, la force de l'être obscure et dévorante. La toute-puissante joie, la déchirante joie, la joie qui aspire l'être comme le vide la pierre. La trompe de désir qui suce la pensée. L'absurde et délirante loi des mondes aveugles et ivres qui roulent dans la nuit. La nuit, leur souffle mêlé, la tiédeur dorée des deux corps qui se fondent. Les abîmes de torpeur où ils tombent ensemble. La nuit qui est des nuits, les heures qui sont des siècles. Les secondes qui sont la mort. Les rêves en commun, les paroles à yeux clos, les doux et furtifs contacts des pieds nus qui se cherchent à demi endormis, les larmes et les rires, le bonheur de s'aimer dans le vide des choses, de partager ensemble le néant du sommeil, les images tumultueuses qui flottent dans le cerveau, les hallucinations de la nuit bruissante. Le Rhin clapote dans une anse au pied de la maison. Dans le lointain, ses flots sur des brisants font comme une petite pluie qui tombe sur le sable. Le ponton du bateau craque et geint sous la pesée de l'eau. La chaîne qui l'attache se tend et se détend avec un cliquetis de ferrailles usées. La voix du fleuve monte. Elle remplit la chambre. Le lit semble une barque. Ils sont entraînés côte à côte par le courant vertigineux, suspendus dans le vide comme un oiseau qui plane. La nuit devient plus noire et le vide plus vide. Ils se serrent plus étroitement l'un contre l'autre. Ada pleure. Christophe perd conscience. Ils disparaissent tous deux sous les flots de la nuit. La nuit, la mort. Pourquoi revivre? La lueur du petit jour frotte les vitres mouillées. La lueur de la vie se rallume dans les corps alanguis. Ils s'éveillent. Les yeux de Ada le regardent. Leurs têtes sont appuyées sur le même oreiller. Leurs bras sont liés. Leurs lèvres se touchent. Une vie tout entière passe en quelques minutes. Des journées de soleil, de grandeur et de calme. Où suis-je? Et suis-je deux? Suis-je encore? Je ne sens plus mon être. L'infini m'entoure. J'ai l'âme d'une statue, aux larges yeux tranquilles, pleins d'une paix olympienne. Il retombe dans les siècles de sommeil. Et les bruits familiers de l'aube, les cloches lointaines, une barque qui passe, deux rames d'où l'eau s'égoutte, les pas sur le chemin caressent sans le troubler leur bonheur endormi, en leur rappelant qu'ils vivent et le leur faisant goûter. Le bateau qui s'ébrouait devant la fenêtre arracha Christophe à sa torpeur. Ils étaient convenus de partir à 7 heures afin d'être revenus en ville à temps pour leurs occupations habituelles. Il chuchota « Entends-tu ? » Elle ne rouvrit pas les yeux, elle sourit, elle avança les lèvres. Elle fit un effort pour l'embrasser, puis laissa retomber sa tête sur l'épaule de Christophe. Par les carreaux de la fenêtre, il vit glisser sur le ciel blanc la cheminée du bateau, la passerelle vide et des torrents de fumée. Il s'engourdit de nouveau. Une heure s'enfuit sans qu'il s'en aperçût. En l'entendant sonner, il eut un sursaut de surprise. « Ada, » dit-il doucement dans l'oreille de son ami. « Eddie, » répéta-t-il, « il est 8 heures. » Les yeux toujours fermés, elle fronça les sourcils et la bouche avec mauvaise humeur. « Oh, laisse-moi dormir, » dit-elle, et se dégageant de ses bras, en soupirant de fatigue, elle lui tourna le dos et se rendormit de l'autre côté. Il resta étendu auprès d'elle. Une chaleur égale coulait dans leurs deux corps. Il se mit à rêver. Son sang coulait à flots larges et calmes. Ses sens limpides percevaient les moindres impressions avec une fraîcheur ingénue. Il jouissait de sa force et de son adolescence. Il avait, sans le vouloir, la fierté d'être un homme. Il souriait à son bonheur et il se sentait seul, seul comme il avait toujours été, plus seul encore peut-être, mais sans aucune tristesse, d'une solitude divine. Plus de fièvre, plus d'ombre. La nature librement pouvait se refléter dans son âme sereine. Étendu sur le dos, en face de la fenêtre, les yeux noyés dans l'air éblouissant de brouillard lumineux, il souriait. « Qu'il est bon de vivre !»« Vivre !» Une barque passa. Il pensa soudain à ceux qui ne vivaient plus, à une barque passée où ils étaient ensemble. Lui, elle. Elle, non pas celle-ci, celle qui dort près de lui. Elle, la seule, l'aimée, la pauvre petite morte. Mais qu'est-ce donc que celle-ci? Comment est-elle là? Comment sont-ils venus dans cette chambre, dans ce lit? Il la regarde, il ne la connaît pas. Elle est une étrangère. Hier matin, elle n'existait pas pour lui. Que sait-il d'elle? Il sait qu'elle n'est pas intelligente. Il sait qu'elle n'est pas bonne. Il sait qu'elle n'est pas belle en ce moment, avec sa figure exsangue et bouffie de sommeil, son front bas, sa bouche ouverte pour respirer, ses lèvres gonflées et tendues qui font une moue de carpe. Il sait qu'il ne l'aime point, et une douleur poignante le transperce quand il pense qu'il a baisé ses lèvres étrangères dès la première minute, qu'il a pris ce beau corps indifférent dès la première nuit qu'ils se sont vus, et que celle qu'il aimait, il l'a regardée vivre et mourir près de lui, et qu'il n'a jamais osé effleurer ses cheveux, qu'il ne connaîtra jamais le parfum de son être. Plus rien. Tout s'est fondu. La terre lui a tout pris. Il ne l'a pas défendu. Et tandis que, penché sur l'innocente dormeuse et déchiffrant ses traits, il la regardait avec des yeux mauvais, elle sentit son regard. Inquiète de se voir observée, elle fit un gros effort pour soulever ses paupières pesantes et pour sourire. Et elle dit d'une langue incertaine, comme un enfant qui se réveille, « Ne me regarde pas, je suis laide. » Elle retomba aussitôt, tuée de sommeil, sourit encore, balbutia, « Oh, j'ai tant sommeil !» et repartit dans ses rêves. Il ne put s'empêcher de rire. Il baisa tendrement sa bouche et son nez enfantin. Puis, après avoir regardé encore un moment dormir cette grande petite fille, il enjamba son corps et se leva sans bruit. Elle poussa un soupir de soulagement lorsqu'il fut parti et s'étendit de tout son long en travers du lit vide. Il prit garde de l'éveiller en faisant sa toilette, quoiqu'il n'y eût aucun risque. Et quand ce fut fini, il s'assit sur la chaise auprès de la fenêtre, regarda le fleuve embrumé et fumant qui semblait rouler des glaçons, et il s'engourdit dans une rêverie où flottait une musique de pastorale mélancolique. De temps en temps, elle entr'ouvrait les yeux, le regardait vaguement, mettait quelques secondes à le reconnaître, lui souriait et passait d'un sommeil dans un autre. Elle lui demanda l'heure, 9h15. Elle réfléchit, à moitié endormie, « Qu'est-ce que cela peut bien être, 9h15 ?» À 9h30, elle s'étira, soupira et dit qu'elle se levait. 10h sonnèrent avant qu'elle eût bougé. Elle se dépita. « Encore sonné, tout le temps, l'heure avance ?» Il rit et vint s'asseoir sur le lit auprès d'elle. Elle lui passa les bras autour du cou et lui raconta ses rêves. Il n'écoutait pas très attentivement et l'interrompait par de petits mots tendres. Mais elle le faisait taire et reprenait avec un grand sérieux, comme si ça avait été des histoires de la plus haute importance. Elle était à dîner. Il y avait le grand-duc. Mira était un chien terre-neuve, non, un mouton frisé, qui servait à table. Ada avait trouvé le moyen de s'élever au-dessus de terre, de marcher, de danser, de se coucher dans l'air. Voilà, c'était bien simple. On n'avait qu'à faire ainsi, ainsi, et c'était fait. Christophe se moquait d'elle. Elle riait aussi, un peu froissée qu'il rit. Elle haussait les épaules. « Ah, tu ne comprends rien !» Ils déjeunèrent sur son lit, dans la même tasse, avec la même cuillère. Elle se leva enfin. Elle rejeta ses couvertures, sortit ses beaux grands pieds blancs, ses belles jambes grasses, et se laissa couler sur la descente de lit. Puis elle s'assit pour reprendre haleine et regarda ses pieds. Enfin, elle frappa des mains et lui dit de sortir. Et comme il ne se pressait pas, elle le prit par les épaules et le poussa à la porte qu'elle referma à clé. Après qu'elle eut bien musé, regardé et étiré chacun de ses beaux membres, chanté en se lavant un lied sentimental en 14 couplets, jeté de l'eau à la figure de Christophe qui tambourinait à la fenêtre et cueilli en partant la dernière rose du jardin, ils prirent le bateau. Le brouillard n'était pas encore dissipé, mais le soleil brillait au travers. On flottait au milieu d'une lumière laiteuse. Ada, assise à l'arrière avec Christophe, l'air assoupi et boudeur, grognait que la lumière lui venait dans les yeux et que toute la journée elle aurait mal à la tête. Et comme Christophe ne prenait pas assez au sérieux ses doléances, elle se renferma dans un silence maussade. Elle avait les yeux à peine ouverts et l'amusante gravité des enfants qui viennent de se réveiller. Mais une dame élégante étant venue s'asseoir non loin d'elle, à la station suivante, elle s'anima aussitôt et s'efforça de dire à Christophe des choses sentimentales et distinguées. Elle avait repris avec lui le « vous » cérémonieux. Christophe se préoccupait de ce qu'elle dirait à sa patronne pour excuser son retard. Elle ne s'en inquiétait guère. « Bah, ce n'est pas la première fois. »« Que quoi ?»« Que je suis en retard, » dit-elle, vexée de la question. Il n'osa demander la cause de ce retard. « Qu'est-ce que tu lui diras ?»« Que ma mère est malade, morte, est-ce que je sais ?» Il fut peiné qu'elle parlât si légèrement. « Je ne voudrais pas que tu mentes. » Elle se froissa. « D'abord, je ne mens jamais. Et puis, je ne peux pourtant pas lui dire. » Il demanda, moitié plaisant, moitié sérieux, « Pourquoi pas ?» Elle rit, elle haussa les épaules en disant qu'il était grossier et mal élevé, et qu'elle l'avait prié, d'ailleurs, de ne plus la tutoyer. « Est-ce que je n'en ai pas le droit ?»« Pas du tout. » « Après ce qui s'est passé, il ne s'est rien passé. » Elle le fixait en riant d'un air de défi, et bien qu'elle plaisantât, le plus fort c'était, il le sentait, qu'il ne lui en eût pas coûté beaucoup plus de le dire sérieusement et presque de le croire. Mais un souvenir plaisant l'égaya sans doute, car elle éclata de rire. En regardant Christophe, elle l'embrassa bruyamment sans se soucier de ses voisins, qui ne semblèrent d'ailleurs s'en étonner aucunement. Il était maintenant de toutes ses promenades, en compagnie de demoiselles de magasin et de commis de boutique, dont la vulgarité ne lui plaisait guère, et qu'il essayait de perdre en chemin. Mais Ada, par esprit de contradiction, n'était plus disposée à s'égarer dans les bois. Lorsqu'il pleuvait, ou que pour quelque autre raison on ne sortait pas de la ville, il l'amenait au théâtre, au musée, au Tiergarten, car elle tenait à se montrer avec lui. Elle désirait même qu'il l'accompagnât à l'office religieux, mais il était si absurdement sincère qu'il ne voulait plus mettre les pieds dans une église depuis qu'il ne croyait plus. Il avait renoncé sous un autre prétexte à sa place d'organiste, et en même temps il était resté, à son insu, beaucoup trop religieux pour ne pas trouver sacrilège la proposition de Ada. Il allait le soir chez elle. Il trouvait là Mira, qui logeait dans la même maison. Mira ne lui gardait pas rancune. Elle lui tendait sa main caressante et molle, causait de choses indifférentes ou lestes, et s'éclipsait discrètement. Jamais les deux femmes n'avaient semblé meilleures amies que depuis qu'elles avaient moins de raisons de l'être. Elles étaient toujours ensemble. Ada n'avait rien de secret pour Mira, elle lui racontait tout. Mira écoutait tout, elle semblait y prendre autant de plaisir l'une que l'autre. Christophe était mal à l'aise dans la société de ces deux femmes. Leur amitié, leurs entretiens baroques, leur liberté d'allure, la façon crue dont Mira surtout voyait les choses et en parlait, moins en sa présence toutefois que quand il n'était pas là, mais Ada le lui répétait, leur curiosité indiscrète et bavarde, constamment tournée vers les sujets niais ou d'une sensualité assez basse, toute cette atmosphère équivoque et un peu animale le gênait terriblement, l'intéressait pourtant, car il ne connaissait rien de semblable. Il était perdu dans la conversation de ces deux petites bêtes qui se parlaient chiffon, se disaient des coqs à l'âne, riaient d'une façon inepte, et dont les yeux brillaient de plaisir quand elles étaient sur la piste d'une histoire égrillarde. Il était soulagé par le départ de Mira. Ces deux femmes ensemble, c'était comme un pays étranger dont il ne savait pas la langue. Impossible de se faire entendre, elle ne l'écoutait même pas, elle se moquait de l'étranger. Quand il était seul avec Ada, il continuait de parler deux langues différentes, mais au moins faisait-il effort l'un et l'autre pour se comprendre. À vrai dire, plus il la comprenait, moins il la comprenait. Elle était la première femme qu'il connut, car si la pauvre Sabine en était une, il n'en avait rien su. Elle était toujours restée pour lui un fantôme de son cœur. Ada se chargeait de lui faire rattraper le temps perdu. Il tâchait à son tour de résoudre l'énigme de la femme, énigme qui n'en est une, peut-être, que pour ceux qui y cherchent un sens. Ada n'avait nulle intelligence, c'était là son moindre défaut. Christophe en eût pris son parti, si elle l'avait pris aussi, mais quoiqu'elle fût uniquement occupée de niaiseries, elle prétendait se connaître aux choses de l'esprit, et elle jugeait de tout avec assurance. Elle parlait musique, elle expliquait à Christophe ce qu'il connaissait le mieux. Elle formulait des arrêts et des vétos absolus. Inutile d'essayer de la convaincre. Elle avait des prétentions et des susceptibilités pour tout. Elle faisait la renchérie, elle était têtue, vaniteuse. Elle ne voulait, elle ne pouvait rien comprendre. Que ne consentait-elle à ne rien comprendre, en effet? Combien il l'aimait mieux quand elle voulait bien se résigner à être ce qu'elle était, simplement, avec ses qualités et ses défauts, au lieu de chercher à en imposer aux autres et à elle-même. En fait, elle se souciait fort peu de penser. Elle se souciait de manger, boire, chanter, danser, crier, rire, dormir. Elle voulait être heureuse, et c'eût été très bien, déjà, si elle y avait réussi. Mais quoique douée pour cela, gourmande, paresseuse, sensuelle, d'un égoïsme candide qui révoltait et amusait Christophe, bref, bien qu'elle eût à peu près tous les vices qui rendent la vie aimable à leur heureux possesseur, sinon à ses amis, et encore un visage heureux, du moins s'il est joli, ne rayonne-t-il pas du bonheur sur tous ceux qui l'approchent? Malgré donc tant de raisons d'être satisfaite de l'existence et de soi, Ada n'avait même pas l'intelligence de l'être. Cette belle et forte fille, fraîche, réjouie, à l'air sain, d'une gaieté débordante et d'un féroce appétit, s'inquiétait de sa santé. Elle gémissait sur sa faiblesse tout en mangeant comme quatre. Elle se plaignait de tout. Elle ne pouvait plus se traîner, elle ne pouvait plus respirer, elle avait mal à la tête, elle avait mal aux pieds, aux yeux, à l'estomac, à l'âme. Elle avait peur de tout. Elle était follement superstitieuse, elle voyait des signes partout. À table, les couteaux, les fourchettes en croix, le nombre des convives, la salière renversée. C'était alors toute une série de rites qu'il fallait accomplir pour écarter le malheur. En promenade, elle comptait les corbeaux, et elle ne manquait pas d'observer de quel côté ils s'envolaient. Elle épiait anxieusement le chemin à ses pieds, et elle se lamentait quand elle y voyait passer, le matin, une araignée. Alors elle voulait revenir. Il n'y avait plus d'autre ressource pour continuer la promenade que de lui persuader qu'il était plus de midi et qu'ainsi le présage s'était mué de soucis en espoir. Elle avait peur de ses rêves. Elle les racontait longuement à Christophe. Elle cherchait pendant des heures un détail quand elle l'avait oublié. Elle ne lui faisait grâce d'aucun. Une suite d'absurdités où il était question de mariage baroque, de mort, de couturière, de prince, de choses burlesques et quelquefois obscènes. Il fallait qu'il écoutât, qu'il donnât son avis. Souvent, elle restait des journées entières sous l'obsession de ces images ineptes. Elle trouvait la vie mal faite. Elle voyait crûment les choses et les gens. Elle assommait Christophe de ses jérémiades. Et ce n'était pas la peine qu'il eût quitté ces petits bourgeois moroses pour retrouver ici l'éternel ennemi, le trauricher und griechischer Hypochondrist. Brusquement, au milieu de ces grogneries boudeuses, la gaieté reprenait, bruyante, exagérée. Il n'y avait pas plus à discuter que la maussaderie d'avant. C'étaient les éclats de rire qui, étant sans raison, menaçaient d'être sans fin, des courses à travers champs, des folies, des jeux d'enfants, un plaisir de faire des sottises, de tripoter la terre, les choses sales, les bêtes, les araignées, les fourmis, les vers, de les taquiner, de leur faire du mal, de les faire manger l'un par l'autre, les oiseaux par les chats, les vers par les poules, les araignées par les fourmis, sans méchanceté d'ailleurs, ou par un instinct du mal tout à fait inconscient, par curiosité, par désœuvrement. C'était un besoin inlassable de dire des niaiseries, de répéter 50 fois des mots qui n'avaient aucun sens, d'agacer, d'irriter, de harceler, de mettre hors de soi. Et ces coquetteries, dès que paraissait quelqu'un, n'importe qui, sur le chemin. Aussitôt elle parlait avec animation, riait, faisait du bruit, faisait des grimaces, se faisait remarquer. Elle prenait une démarche factice et saccadée. Christophe pressentait avec terreur qu'elle allait dire des choses sérieuses. Et en effet, cela ne manquait point. Elle devenait sentimentale. Elle l'était sans modération, comme elle était tout le reste. Elle s'épanchait avec fracas. Christophe souffrait, il avait envie de la battre. Il ne lui pardonnait rien moins que de n'être pas sincère. Il ne savait pas encore que la sincérité est un don aussi rare que l'intelligence et la beauté, et qu'on ne saurait sans injustice l'exiger de tous. Il ne supportait pas le mensonge, et Ada lui en donnait bonne mesure. Elle mentait constamment, tranquillement, en face de l'évidence. Elle avait cette facilité étonnante d'oublier ce qui leur déplaît, ou même ce qui leur a plu, qu'ont les femmes qui vivent au cours des heures. Et malgré tout, ils s'aimaient. Ils s'aimaient de tout leur cœur. Ada était aussi sincère que Christophe dans son amour. Pour ne pas reposer sur une sympathie de l'esprit, cet amour n'en était pas moins vrai. Il n'avait rien de commun avec la passion basse. C'était un bel amour de jeunesse. Et si sensuel qu'il fût, il n'avait rien de vulgaire, parce que tout était jeune en lui. Il était naïf, presque chaste, lavé par l'ingénuité brûlante du plaisir. Bien que Ada ne fût pas, à beaucoup près, aussi ignorante que Christophe, elle avait encore le divin privilège d'un cœur et d'un corps adolescent, cette fraîcheur des sens, limpide et vive comme un ruisseau, qui donne presque l'illusion de la pureté et que rien ne remplace. Égoïste, médiocre, insincère dans la vie ordinaire, l'amour la rendait simple, vraie, presque bonne. Elle arrivait à comprendre la joie que l'on pouvait trouver à s'oublier pour un autre. Christophe le voyait avec ravissement. Il aurait voulu mourir pour elle. Qui peut dire tout ce qu'une âme aimante apporte dans son amour de ridicule et touchante illusion? Et l'illusion naturelle de l'amoureux était encore centuplée chez Christophe par le pouvoir illusoire inné à tout artiste. Un sourire de Ada avait pour lui des significations profondes. Un mot affectueux était la preuve de sa bonté de cœur. Il aimait en elle tout ce qu'il y avait de bon et de beau dans l'univers. Il l'appelait son moi, son âme, son être. Ils pleuraient d'amour ensemble. Ce n'était pas seulement le plaisir qui les liait. C'était une poésie indéfinissable de souvenirs et de rêves. Les leurs, ou ceux des êtres qui avaient aimé avant eux, qui avaient été avant eux en eux, ils gardaient sans se le dire, sans le savoir peut-être, la fascination des premières minutes où ils s'étaient rencontrés dans le bois, des premiers jours, des premières nuits passées ensemble, ces sommeils dans le bras l'un de l'autre, immobiles, sans pensée, noyés dans un torrent d'amour et de joie silencieuse. De brusques évocations, des images, des pensées sourdes, dont le frôlement les faisait secrètement pâlir et fondre de volupté, les entouraient comme d'un bourdonnement d'abeilles. Lumière brûlante et tendre. Le cœur défaille et se tait, accablé par une douceur trop grande. Silence, langueur de fièvre, sourire mystérieux et las de la terre qui frissonne au premier soleil du printemps. Un frais amour de deux corps juvéniles est un matin d'avril. Il passe comme avril. La jeunesse du cœur est un déjeuner de soleil.